Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici aujourd'hui la deuxième partie de l'émission dont vous avez pu écouter le début la semaine dernière dans Au fil des pages.
Voilà, nous sommes sur les deux radios FM Plus à Montpellier et Radio Alliance à Nîmes. Et l'émission d'aujourd'hui, c'est un commentaire, une présentation du livre du pasteur luthérien palestinien Munda Isaac. Le livre est intitulé « L'autre côté du mur » et on peut le trouver en librairie. Il est édité par les Amis de Sabille, France. Alors moi, je voudrais faire un petit commentaire en deux parties. Si mon commentaire était un toit, le toit d'une maison, il aurait deux pentes. Sur la première pente, c'est la description de la situation des Palestiniens et des souffrances qu'ils subissent. Et le deuxième point, c'est la théologie qui est développée dans le livre du pasteur Munda Isaac. Alors, bien entendu, la description de la situation des Palestiniens, puisque le livre s'appelle « De l'autre côté du mur », je vais commencer par le mur. Le mur a été construit par les Israéliens. Beaucoup de gens pensent que ce mur est sur la limite entre le territoire israélien et le territoire palestinien occupé. Ça n'est pas ça du tout. Le mur, en même temps, est une grignote dans le territoire palestinien. Il est construit, une grande partie du mur est construit sur les terres des Palestiniens. Et autrement dit, sous prétexte de protéger les Israéliens d'attentats éventuels qui ont eu lieu, effectivement, qui n'étaient pas de la blague, sous ce prétexte-là, c'est un accroissement du territoire israélien. C'est la raison pour laquelle la Cour internationale de justice, en 2006, a déclaré ce mur illégal. Alors, les conséquences de ce mur sont très concrètes, très physiques. Pour un agriculteur, par exemple, le mur sépare l'agriculteur de son champ. Alors, le mur comporte des portes qui sont ouvertes au bon vouloir de l'armée israélienne, mais ces portes ne s'ouvrent pas toujours à la même heure. C'est des difficultés complémentaires, quoi. Pour les commerçants, le mur sépare les clients de la boutique qu'ils gèrent. Pour les élèves des écoles, ce mur introduit interrompt le chemin de l'école et oblige à faire un détour qui est parfois très long. Et sépare les familles. Les familles ne peuvent plus se rendre visite comme ils veulent, quoi. Alors, un exemple des difficultés que crée ce mur, c'est l'exemple de la vallée de Crémizan à Bechala, à côté de Bethléem, qui est très célèbre pour son vin. En Palestine, on boit le vin de Crémizan. Et ce mur coupe en deux. D'un côté, nous avons les écoles et de l'autre côté, les couvents où logent les institutrices des écoles. Ce mur, en fait, divise la population en deux. D'un côté, les gens qui sont les Israéliens, et de l'autre côté, les Palestiniens qui, eux, sont dépourvus de droits. Le territoire palestinien, les Palestiniens dans les territoires subissent deux choses en même temps. D'une part, l'occupation militaire, c'est-à-dire qu'il y a des soldats partout. Moi, qui ai un certain âge, j'ai connu l'époque où la France et même le Midi étaient occupés par les soldats allemands. Bien, sur son chemin, on rencontrait une chenillette allemande et on ne pouvait pas passer. Et bien là, et on ne comprenait pas pourquoi. Et là, c'est la même chose. L'occupation est exactement la même. C'est une opération militaire. Et en plus, dans le territoire palestinien, l'occupation se double d'une colonisation. C'est-à-dire que Israël installe une partie de sa population dans les territoires occupés. Alors l'idéologie qui soutient ce système, c'est l'idéologie sioniste. Et d'après l'idéologie sioniste, les sionistes disent « la terre nous appartient à nous, elle nous a été donnée en exclusivité, les habitants palestiniens qui se trouvent sur cette terre n'ont rien à y faire, ils ne sont pas, c'est une erreur de les trouver là ». Nous allons remettre les choses à l'endroit, nous allons remettre les choses dans le bon ordre en établissant des colonies. Et voilà pourquoi ces colons sont en général extrêmement violents à l'égard de la population palestinienne. On cite le nombre des morts en 2024. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est très, très important. Ils pratiquent l'arrachage des oliviers, vous avez peut-être vu ça à la télévision, la destruction des maisons, que ce soit des écoles ou des centres de soins, qu'on appelle en anglais « clinics », des dispensaires. Ils pratiquent le harcèlement des enfants sur le chemin de l'école. Et ça, c'est le rôle que joue en Palestine un organisme, ça s'appelle EAPPI, c'est un organisme du Conseil œcuménique des Églises. En anglais, c'est Ecumenical Accompaniment Program in Palestine, Israel, et ça donne EAPPI. Alors, EAPPI envoie en Palestine des gens qui séjournent pendant 3 mois. Alors, pourquoi 3 mois? Parce que c'est la durée d'un visa de tourisme. Et alors, c'est des églises du monde entier qui participent à ce programme et qui ont des gens qui... Il y a plusieurs points en Palestine occupée où il y a des gens qui surveillent ce qui se passe. Et en particulier, ils accompagnent les enfants à l'école le matin pour s'assurer que les choses se passent bien. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, la violence est non seulement le fait des soldats israéliens qui empêchent les gens de passer, mais également celle des colons qui incarnent l'idéologie sioniste tout à fait en direct. Munzer Isaac est très complet dans son étude de ce que subissent les Palestiniens. Il rajoute à ça la loi de juillet 2018 qui s'appelle loi État-nation, Israël État-nation du peuple juif, dans laquelle il est dit que seuls les juifs ont droit à l'autodétermination, donc ça exclut les gens qui ne sont pas juifs. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit très clairement, l'État d'Israël n'est pas l'État de tous ses habitants, il est l'État des seuls juifs. Et deuxièmement, Munzer Isaac fait allusion au déplacement de l'ambassade des États-Unis qui a été déplacée par le président Trump de Tel Aviv où elle était à Jérusalem. Moi, en tant que Français, l'ambassadeur de France se trouve à Tel Aviv. À Jérusalem, nous avons un consul général qui est indépendant de toute autre institution, mais l'ambassadeur est à Tel Aviv. Et l'ambassadeur américain était à Tel Aviv jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que le président Trump décide de le transférer à Jérusalem. Je crois que les Américains ont été les seuls à transférer leur ambassade à Jérusalem. Alors, je voudrais, pour terminer, faire une petite incursion du côté de la théologie. Et en particulier, l'exposé du pasteur Munder Isaac est dirigé surtout pour les chrétiens américains, les sionistes chrétiens. C'est ceux qui sont pour l'État d'Israël, quoi que l'État d'Israël fasse. Et c'est ça qu'on appelle les sionistes chrétiens, qui basent leur interprétation de la Bible sur la promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Alors là-dessus, Munder Isaac est très complet. Il est orfèvre en la matière, puisqu'il a fait lui-même son doctorat à Oxford sur la promesse dans la Bible. Alors, il est très complet là-dessus. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement donner les deux points sur lesquels tout le monde est d'accord. Le premier point, c'est le suivant. Seul Dieu est propriétaire de la terre et les habitants de la Palestine ne sont que des locataires passagers. Et même la Bible dit, si vous désobéissez, vous serez expulsés, vous serez chassés. Le texte biblique dit même vomis, comme l'ont été les gens qui vous ont précédés. Et la deuxième chose, c'est que cette occupation, occupation temporaire ou révocable est conditionnelle. Et alors, comme l'a dit le pasteur Ernest Reichert, elle est surtout conditionnée à la justice. Et Ernest Reichert a été très exact là-dessus, en particulier dans le livre d'Ézéchiel, où la justice est très importante. Donc, le texte... alors, sur les études bibliques, le Munder Isaac s'attache à deux paraboles qui sont, d'une part, la parabole du bon samaritain et de l'autre côté, la parabole qui concerne la femme cananéenne. Alors, dans les deux cas, c'est ça qui est extraordinaire, il s'agit de gens qui sont de l'autre côté du mur. Le samaritain, c'est des gens qui habitent spécialement. Aujourd'hui, il reste des samaritains à côté de Naplouse, ce qui s'appelle le mont Gerizim. Mais ils ne sont pas considérés par les juifs comme des bons juifs. Et ils sont très méprisés, très secondarisés, très marginalisés. Et c'est ce bon... Alors l'histoire du bon samaritain, je pense que tout le monde l'a en mémoire, c'est un homme qui voyage sur le chemin et qui est attaqué par des voyous qui le dévalisent et le laissent pour mort au bord du chemin. Et alors, deux personnages passent qui sont des savants, des docteurs de la loi, et qui voient cet homme et qui pensent qu'il est mort et ne lui portent pas secours. Et puis arrive un de ces samaritains haïs, et c'est le samaritain détesté qui porte secours à l'homme qui a été agressé. Alors, c'est ça l'histoire du bon samaritain. La cananéenne, c'est une femme dont la fille est malade et qui vient rencontrer Jésus, qui lui dit « Toi qui es le Messie de la maison de David, je te demande de faire quelque chose pour sauver ma fille. » Et Jésus finit par accepter de sauver la fille de la femme cananéenne, alors que la femme cananéenne est elle aussi en butte au mépris et à la mise de côté des Juifs, puisqu'elle n'appartient pas, elle n'est pas dans le même territoire. Elle est, si on veut, la femme cananéenne, ça correspondrait à une partie du territoire libanais d'aujourd'hui, donc en dehors de la Palestine. Alors, pour terminer, je voudrais lire un certain nombre de passages que j'ai sélectionnés. Je vais commencer par, on a déjà parlé du document Kairos Palestine. Je voudrais lire quelques passages, quelques mots de Kairos Palestine. Kairos, c'est un mot grec qui signifie le moment opportun. Et il y a plusieurs façons de dire le temps en grec, mais l'une des façons, c'est de dire le moment opportun, kairos. Et alors le texte, c'est Kairos Palestine, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, il a été publié en 2009, il est adressé aux des églises du monde entier, et ces églises ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas écouté. Alors voilà ce que je veux vous lire, c'est à la page 75. En 2008, des responsables laïcs chrétiens palestiniens, des théologiens, des pasteurs et des militants de tous horizons ecclésiaux ont publié un important document intitulé « Kairos Palestine », un document audacieux et prophétique qui qualifie à juste titre l'occupation israélienne du territoire palestinien de péché contre Dieu. Ça, c'est une citation, hein. Péché du document Kairos Palestine, de péché contre Dieu et l'humanité. Il avertit en outre que toute utilisation de la Bible pour légitimer ou soutenir des options et des positions politiques fondées sur l'injustice, imposées par une personne à une autre ou par un peuple à un autre peuple, transforme la religion en idéologie humaine et dépouille la parole de Dieu de sa sainteté, de son universalité et de sa vérité. Fermez les guillemets, puisque c'était une citation. De même que la Bible a servi jadis à justifier l'apartheid et l'esclavage, elle est utilisée aujourd'hui pour justifier l'oppression des Palestiniens. Il est temps d'annoncer que le sionisme chrétien, dans son expression actuelle, est une idéologie humaine qui dépouille la parole de Dieu de sa sainteté, de sa universalité et de sa vérité. Et toujours la même citation, il est temps de déclarer le sionisme chrétien incompatible avec l'évangile et la foi chrétienne. Alors, je vais vous lire un autre passage que j'ai sélectionné. C'est à la page 165. Dans le contexte chrétien, beaucoup de gens assimilent les Juifs d'aujourd'hui aux Israélites de la Bible et les Palestiniens d'aujourd'hui aux Cananéens ou aux Philistins. Ils voient les Juifs comme des enfants d'Abraham et les Arabes comme les descendants d'Ismaël. Mais imposer des identités aux gens n'est pas de bonne approche. Ce n'est pas du tout utile. Nous ne résoudrons pas le conflit en faisant ces équivalences. Alors, mon sort en tant que Palestinien, dit-il, comme d'ailleurs le sort de mon voisin juif, ne peut pas dépendre de ce que la Bible ou les interprétations occidentales qui en ont été faites. La Bible a dit, il y a des milliers d'années, concernant le sort des descendants d'Abraham et d'Ismaël, indépendamment du fait que je ne crois pas que tous les Juifs d'aujourd'hui soient des descendants d'Abraham, ni tous les Arabes des descendants d'Ismaël. Nous devons construire notre avenir en fonction de nos décisions et de nos responsabilités morales. Autre citation, je peux en donner encore une si j'ai le temps. À propos de l'occupation, alors l'occupation est dévastatrice pour l'occupé palestinien, mais elle est également destructrice pour l'occupant israélien. Voici ce que en dit Munder Isaac. En outre, j'ai fait une rencontre que je n'oublierai jamais. Une conversation avec un juif ukrainien qui avait récemment quitté l'Ukraine. Il était très calme et poli, et tout au long de la conférence à laquelle nous assistions, il n'a cessé de me poser des questions sur la vie à Bethléem et sur notre compréhension du conflit. Il avait beaucoup de questions et était très réceptif à mes propos et à mon point de vue. Le dernier soir de la conférence, il a demandé à me parler en privé et j'ai supposé qu'il voulait me poser d'autres questions. Au lieu de cela, il a commencé par me raconter son histoire, en particulier son expérience de conducteur de char pendant la dernière guerre contre Gaza. Je vous rappelle que le livre a été publié en 2020 en anglais en Palestine et traduit en 2023 en français ici. Donc de toute façon, c'est avant les événements que nous vivons, le génocide à Gaza actuel. Il m'a décrit la pauvreté qu'il avait découverte et qu'il avait littéralement aggravée en saccageant les maisons des réfugiés les unes après les autres avec son char, démolissant le mur et la maison en une seule fois. Il tremblait visiblement en partageant cette expérience et à la fin il s'est mis à pleurer comme un bébé, me suppliant de lui pardonner ce qu'il avait fait. Je n'ai rien su faire d'autre que de le prendre dans mes bras et l'assurer que je lui pardonnais et que Dieu voyait sa douleur et son cœur, comme il voyait ceux des gens de Gaza, qu'il écrasait les gens de Gaza avant les événements actuels, je le répète. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je pourrais donner d'autres citations, mais je pense que vous avez eu une idée de ce que raconte le livre par ses citations. Et nous allons écouter un peu de musique pour terminer. Alors, cette musique, c'est le cœur des enfants, des élèves de l'école des amis à Ramallah. Les amis, ce sont les Quakers. C'est l'école des Quakers à Ramallah. Nous avions prévu une autre chorale, d'ailleurs. Ça s'appelait Banat al-Quds, c'est-à-dire les filles de Jérusalem. Et c'était un hommage à Shirin Abu Akleh. Alors, Shirin Abu Akleh est en couverture sur le livre, la première de couverture, son portrait. C'est, pour rappeler qu'est-ce que c'est, c'est une Palestinienne, à la fois américaine et palestinienne, qui était journaliste à Al Jazeera, qui couvrait les événements qui se passaient alors en Palestine, et qui était très connue grâce à Al Jazeera. Pour les Palestiniens, c'était quelqu'un qui était chez eux pratiquement tous les jours, par les écrans. Et alors, il y a deux choses sur la mort. Cet événement a été rappelé dans la journée, le jour de la journée mondiale de prière pour la paix du 1er mars. Il était question de Shirin Abu Akleh, mais c'était tellement allusif que je me demande si les gens ici ont compris de quoi il s'agissait. Les dames qui ont rédigé ces prières en Palestine connaissent les événements et elles pensaient que les Occidentaux les connaissent d'eux-mêmes. Alors que moi, j'ai entendu cette prière le jour de la journée mondiale de prière pour la paix, le 1er mars, et j'avoue que si on n'est pas au courant, on ne sait pas de quoi il se passe, de quoi il s'agit. Alors, les deux événements, c'était premièrement la mort de Shirin Abu Akleh dans l'accomplissement de son travail. Elle a été tué par un tireur d'élite israélien. Alors les Israéliens ont mis beaucoup de temps à reconnaître les faits et finalement ils ont été obligés de dire que oui, c'était bien un tireur israélien qui l'avait tué. Et le deuxième événement, c'est lors de son enterrement, quand le cercueil est sorti de l'église, puisque c'était une journaliste chrétienne. Quand il est sorti de l'église, il était recouvert du drapeau palestinien. Et les policiers israéliens ont été furieux de voir le drapeau palestinien et ont voulu arracher le drapeau palestinien. Et ils ont failli faire tomber le cercueil à terre. Et tout ça, les Palestiniens l'ont vu et le savent.
Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+. C'est ainsi que se termine la deuxième partie de l'émission à propos du livre « L'autre côté du mur » de Munter Isaac. Merci à Philippe Doma d'avoir animé cette émission. Au revoir.